Amen. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est pas que ce soit la prédication, que ce soit les paroles prophétiques, eh bien, il n'y a aucun jugement sur nos vies. Amen. Il ne faut jamais prendre ni une parole prophétique, ni la prédication comme un jugement. Mais plutôt, je dirais, à cause de l'amour que Dieu nous porte, il nous avertit, il nous encourage pour que nous puissions marcher dans ses voies. Amen. Nous sommes là pour vous encourager à connaître Dieu. Et à vous connaître. Amen. À vous connaître. Dites déjà bonjour à celui qui est à côté de vous. Amen. Oh là là, c'est timide ce matin, c'est l'hiver. Bonjour. Amen. Mais c'est chauffé ici. Voilà. Ceci dit, nous allons ensemble ouvrir la parole de Dieu et poursuivre. Les exemples dans l'Ancien Testament, nous verrons aussi dans le Nouveau Testament, des hommes qui étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Est-ce que être rempli de l'Esprit de Dieu, cela signifie qu'on est toujours au sommet, toujours dans la victoire, toujours dans la victoire? Eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Samuel, le prophète Samuel, 2 Samuel, et chapitre 11, déjà le premier verset et puis le verset 27. De Samuel, chapitre 11, verset 1er. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Notez ce petit mot, mais David resta à Jérusalem. Et au verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Et c'est ce mot, ce petit verset qui nous intéresse. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Est-ce que cela remet en cause ce que nous avons dit? Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est pour notre instruction. Et déjà, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Oui, David reste cet homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il est le cœur, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été oint par Dieu. Ce n'est pas le choix d'un homme. C'est le choix de Dieu. Et nous sommes le choix de Dieu. Amen. Nous sommes le choix de Dieu. David a été oint. Et ce qui est intéressant, ce que nous avons partagé dimanche passé, c'est qu'à partir du moment où il a été oint, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Pas pour les moments, mais la Bible nous dit pendant longtemps. L'Esprit de Dieu était sur lui. En étudiant la vie de David, c'est un homme remarquable sur tous les points. Cet homme, avant même de faire quoi que ce soit, il prenait le temps de chercher la face de Dieu. Mais je ne sais pas si dans le texte que nous partageons ce matin, s'il a pris le temps de chercher la face de Dieu. Il a mené les combats. Et des fois, il disait, Seigneur, est-ce que je vais passer par là? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Par où je dois aller? Et l'Esprit de Dieu était sur lui, lui montrait ce qu'il fallait faire. Mais ici, nous venons de lire ce que David avait fait de plus à l'Éternel. On se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé, David? L'homme qui témoignait que Dieu était avec lui quand le lion venait prendre une brebis, il courait, nous dit la parole de Dieu. Il arrachait la brebis de la gueule du lion. Et il a rendu témoignage à Saül. Dieu qui m'a délivré de la gueule du lion, qui m'a délivré de la patte de l'ours, me délivrera également de ce géant, Goliath. Et voilà, maintenant, David. Vous prendrez le temps de lire ces textes. La première chose que nous allons voir, c'est que David était au mauvais endroit, au mauvais moment. Deuxième chose, c'est que David a cherché à dissimuler, à cacher sa faute. Troisièmement, dans l'amour de Dieu est toujours là pour ceux qui le craignent, même pour ceux qui ne le craignent pas. Dieu ne punit pas. Ce n'est pas sa première vision. Mais il va envoyer un messager pour avertir David. Il va envoyer un messager pour avertir David. Et quatrièmement, c'est la plus grande des confessions, la plus grande des repentances que nous trouvons dans la parole de Dieu. Oui, et là on retrouve l'homme selon le cœur de Dieu. Il va se repentir. Il va demander pardon. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. David devait être à la tête de l'armée. Il devait être avec Joab, avec le peuple, pour combattre les ennemis de l'Éternel. Mais lui, ce jour-là, il va envoyer le chef de l'armée et tout le peuple, mais lui, il va rester dans son palais. La Bible nous dit qu'il dormait. Ce n'est pas mauvais de dormir. Mais ce n'était pas le moment de dormir quand il faut combattre. Quand vous avez des combats, quand vous avez des soucis, quand vous êtes tenté, quand il y a un combat spirituel, c'est le temps de se réveiller. Amen. C'est le temps de se réveiller et de combattre. Il ne faut pas faire comme Jonas. Lui, il dormait, alors que les autres allaient faire le naufrage. Il dormait. Et il va se réveiller. Il va se réveiller. C'était le soir et il se promenait, nous dit la parole de Dieu. Il se promenait sur le toit de la maison, une sorte de terrasse, l'endroit le plus élevé du palais. Et de cet endroit, David pouvait voir ce qui se passait dans la cour de toutes les maisons qui étaient autour. Et il va voir une femme qui était en train de se baigner. La Bible précise que c'était une femme belle. Et David va abuser de son autorité royale. Il va faire venir cette femme. Et il va coucher avec elle. Et je disais que tout commence toujours par le regard. Tout commence par le regard. Et le regard communique avec notre cœur. Si votre cœur, si mon cœur est pur, eh bien il va repousser ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Mais nous pouvons, pour des raisons diverses et variées, tomber dans la tentation. D'ailleurs, je voudrais préciser ce que dit la parole de Dieu, parce que souvent les gens disent « Dieu me tente ». Non, la Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui le tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Voilà. À un certain moment, il faut s'arrêter. Chacun est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est ce qui se passe dans le cœur. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, j'ai dit être tenté, ce n'est pas un péché être tenté. Non, parce que Christ a été tenté. La Bible nous dit qu'il n'a jamais commis de péché, mais il a été tenté. Le péché, c'est succomber à la tentation, c'est céder à la tentation. Et la parole de Dieu va plus loin, il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple qui va mieux nous aider à comprendre les agissements, les actions de David. Après une victoire retentissante du peuple de Dieu sur Jéricho, c'est une victoire extraordinaire. Dieu avait dit de ne rien toucher. Tout était frappé par interdit. Et il y a un homme qui s'appelle Achan. Lui va être intelligent. Alors qu'on ne le voyait pas, il va prendre des choses interdites par Dieu. Et des fois, on se dit, personne ne me voit. Personne ne me voit. Il y a celui qui a tout créé qui te voit, mais qui t'aime. Et quand Josué va envoyer 3000 soldats pour combattre Haï, eh bien, ils vont connaître une défaite. Et l'homme de Dieu va chercher la face de Dieu. Il va pleurer, il va dire, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a un interdit. Il faut enlever l'interdit. Il n'y a pas de paix quand nous dissimulons le péché. Nous ne pouvons pas avoir la paix de Dieu alors que l'Esprit de Dieu nous a montré ce qui ne va pas et que nous ne voulons pas confesser et abandonner notre péché. La confession d'Achan nous dit ceci. Achan répondit à Josué, il dit, « Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar, un beau manteau. » Regarde, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Aller dans les magasins, regarder. On appelle ça, c'est lèche-vitrine. Et puis, quand j'étais étudiant à Paris, je ne savais pas qu'on pouvait voir des montres de 200 000 euros. Vous vous rendez compte? Hein? Sur les Champs-Élysées. Je me promenais, je voyais des choses, je me dis, c'est pas possible. Qui peut acheter des choses de ce genre? Oui, nous pouvons regarder et convoiter certaines choses. Il dit, j'ai convoité 200 sicles d'argent, un lingot d'or du poids de 50 sicles. Je les ai convoités, je les ai pris, ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est au-dessus. Je mets en évidence ici quatre verbes. Voir, convoiter, prendre et cacher. On retrouve exactement la même chose. David a vu une femme nue. Il a convoité. Il a fait venir. Il a couché avec elle et il va mettre en place un stratagème en trois points. Premièrement, c'est vrai que David est intelligent. Et souvent, quand on pêche, il y a aussi, j'allais dire, une intelligence diabolique. Il va faire revenir Uri et en pensant que Uri va retourner dans sa maison. Il va lui dire, il va faire une sorte de comédie, il va poser la question, est-ce que Joab va bien? Est-ce que le peuple va bien? Est-ce que nous avons gagné le combat? Mais au fond, ce n'était pas ça qui l'intéressait. Et puis après, il va lui dire, mais tu es fatigué, va te reposer chez toi. Il va faire suivre ses paroles avec un présent royal pour accompagner Uri pour aller dans sa maison. Mais il n'avait peut-être pas compté sur ce que Dieu peut faire. Uri, c'était un homme intègre. Et il va dire, non, je ne peux pas. Mon Seigneur Joab est au combat. Le peuple de Dieu est au combat. Moi, j'irai chez moi, je vais coucher avec ma femme, je vais... Non! Et il a décidé de rester devant la porte de la maison royale avec les serviteurs. Il résista à la tentation. Là où David est tombé, lui n'est pas tombé dedans. Deuxième plan de David, quand il voit que ça ne marchait pas, il va l'inviter à sa table, la table royale. Il va manger, il va boire, mais la Bible dit ceci. David va l'enivrer. Il va l'enivrer. En espérant que l'alcool va faire son jeu. Et que Uri va retourner chez lui. Et comme ça, il va camoufler le mal qu'il a fait. Mais Uri résista. Il resta toujours couché avec les serviteurs de David devant la porte de la maison royale. Alors, c'est quand c'est comme ça. Quand on n'est pas sur le chemin de la repentance, eh bien, le diable travaille. Eh bien, il va mettre en place cette fois-ci ce que j'appelle une machine diabolique. Il va écrire une lettre. À l'époque, il n'y avait pas de facteur. C'est Uri lui-même qui va être facteur de sa mort. Il va prendre la lettre. Et la Bible est claire. Voici ce que David écrit et envoie à Joab. Placez Uri au plus fort du combat. Retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Qu'est-ce qu'avait fait Uri? Je pense que c'est souvent, chers frères et sœurs, que nous devons réfléchir sur nos actions, sur nos paroles, par rapport à nous, par rapport même à notre foyer, à notre famille et autour de nous. Quand nous faisons du mal autour de nous, mais qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous pousse? C'est très facile de dire ce qui se passe ailleurs. Des fois, à commencer par moi, je me dis, si je faisais ce qu'il fallait déjà dans mon foyer, il y aurait plus de joie, oui ou non? Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas justement à apporter le bonheur? Parce que nous souhaitons tous le bonheur. Surtout quand on est enfant de Dieu. Il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est tellement amour qu'il va fermer les yeux sur leur péché. On entend souvent, mais Dieu est amour, mais Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Amen. Il est tellement amour qu'il a donné son fils unique, mais il est tellement juste et saint qu'il a frappé pour toi, pour moi. Si Christ est mort à la croix, c'est à cause de toi, c'est à cause de moi. Lui, il était innocent, il était juste. Mais Dieu, pour nous justifier, nous rendre justice, il a frappé un innocent. Christ est mort pour toi, pour moi. Dieu nous dit, la parole de Dieu, Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais il avertit. Amen. Il avertit. Déjà dans l'Ancien Testament, Moïse apporta cette parole aux enfants d'Israël. « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et nous retrouvons mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Et ce mot périr est venu aussi dans la bouche de Jésus en disant, si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Et pourtant, nous venons d'apprendre que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il avertit. Dieu a désapprouvé l'attitude de David, mais il ne l'a pas laissé. Et il va envoyer son messager. Amen. Il va envoyer le prophète Nathan. Dieu nous regarde. Il nous connaît parfaitement. Et c'est pourquoi il nous avertit de plusieurs manières. Dans le but que nous puissions écouter et revenir dans ses voies. Et avec beaucoup de sagesse, Nathan va s'efforcer de montrer à David le mal qu'il a fait d'abord à Dieu. Quand nous péchons, eh bien, le premier qui souffre, c'est Dieu. Le premier qui souffre, c'est Dieu. Et il va lui dire, comment David, t'as pu faire de telles choses et mépriser ma parole? Tu m'as méprisé. Tu m'as méprisé. Mais tu as brisé une famille. Ce que tu as fait, cette famille est en souffrance. Mais tu as jeté un discrédit sur le peuple. Tu étais le modèle. Et maintenant, tout le peuple va te suivre. Je pense qu'il est important de laisser la parole de Dieu nous sonder. Qu'est-ce que je cherche à dissimuler à Dieu? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si ce matin, au moins, nous pouvons, d'un cœur humble, dire à Dieu, sonde-moi, ô Dieu. Regarde, Seigneur, sonde-moi. Regarde mon cœur, regarde mes pensées. Si tu vois, Seigneur, que je me suis éloigné de toi, ramène-moi dans tes voies. Et là, nous trouvons, chers frères et sœurs, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que quand Nathan va avec des images, des métaphores, parler à David, il y a quelque chose qui va naître dans le cœur de David. Il va dire, cet homme qui a commis une telle injustice, eh bien, il mérite la mort. Et Nathan, il dit, c'est toi. Si te manquait quelque chose, il suffisait de me demander. Mais pas de user de ta place de roi, de ton autorité pour faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on voit le cœur de David. Vous prendrez le temps chez vous de lire le psaume 51 et le psaume 32. La plus belle confession, la plus belle repentance. David est frappé. C'est comme si les écailles tombent de ses yeux et réalise le mal qu'il a fait. Et il va dire ceci. Il ne va pas se braquer comme a fait Saül. C'est le roi Saül, lui. Il a tué les prophètes. Quand on lui disait la vérité, il tuait les prophètes. Il tuait tout ce qui était contre lui. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Esprit Saint s'est retiré. Pour Samson, c'était la même chose. Lui, il a joué avec le péché et il pensait qu'il allait s'en sortir comme les autres fois. Et la Bible nous dit qu'il ne savait pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Et David, eh bien, il va fléchir le genou devant toi. Il dira, tant que je me suis tué, maison se consumait. Tant que je me suis tué, tant que j'ai gardé le péché, maison se consumait. Je gémissais toute la nuit. Il gémissait parce qu'il savait ce qu'il a fait. C'était un homme de joie, de bonheur. Mais après avoir commis un tel péché, eh bien, il ne pouvait plus retrouver son sommeil. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai point caché mon iniquité. J'ai dit, et ceci, il nous ouvre son cœur, ce qu'il a dit. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà ce que dit David. J'ai méprisé ton nom en prenant la femme de mon prochain. Il savait très bien que l'adultère était puni dans l'Ancien Testament par la lapidation. Et il ne va pas seulement parler de l'infidélité, il va parler du sang versé. J'ai versé le sang innocent en tuant un homme, Uri, oh Dieu. Au Dieu de mon salut, il va dire textuellement, délivre-moi du sang versé. Délivre-moi du sang versé. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur te délivre? Qu'est-ce que tu as fait qui n'est pas la gloire de Dieu? David, il ne va rien cacher. Il ne va rien cacher. Et dans ta bonté, et c'est ça qui est merveilleux, non seulement il a passé son temps dans la repentance, dans les pleurs, dans les gémissements, en demandant la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu, mais il va être relevé avec une certitude que Dieu a entendu sa repentance et qu'il est pardonné. Il va dire, tu as effacé la peine de mon péché. Amen. Tu as effacé la peine de mon péché. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et ne me retire pas ton Esprit Saint. Voilà. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ce cœur-là est entaché. Maintenant, Seigneur, je sais que tu es le créateur de toutes choses. Crée en moi un cœur pur. Quand nous entendons la parole de Dieu pour la première fois, c'est la prière que nous faisons. Seigneur, change mon cœur, transforme ma vie, fais que je sois ton enfant. Et le Seigneur accepte notre confession, notre repentance. Mais quand nous péchons aussi, nous souillons le temple de Dieu. Je rappelle, chers frères et sœurs, que vous êtes, que nous sommes le temple de Dieu. Et que Dieu habite en nous, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand nous faisons des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, nous attristons le Seigneur, nous attristons le Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne peut pas dire, oh, c'est pas grave, c'est rien du tout, c'est grave. Si vous attrapez des petits microbes, eh bien, si vous ne le faites pas soigner, plus tard, ça deviendra terrible. Mieux vaut se faire soigner tout de suite. Et je termine avec cette conclusion d'Ézéchiel et puis de Jean. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est ça la repentance. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Autrement dit, je ne désire pas la mort du pécheur, de celui qui est déjà hâté par le péché. Mais ce que je veux, dit la parole de Dieu, convertissez-vous, donc, et vivez. Et ça, c'est l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament nous dit ceci dans 1 Jean, chapitre 1er, verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas à nous. Parce que tous ont péché. Et ils sont privés de la gloire de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Mais grâce soit rendue. Et c'est ça qui est merveilleux, qui est l'équilibre de la parole de Dieu. Tant le Seigneur nous montre ce qui ne va pas dans notre cœur, mais il nous montre le chemin à suivre. Il nous montre le remède. Mais jamais le Seigneur ne nous force. Non. Voici, voilà, il y a le chemin qui mène à la vie, au bien. Il y a le chemin qui mène à la mort et au mal. Moi, ton Créateur, ton Sauveur, je te donne un conseil. Prends le chemin qui mène à la vie. Tu connais le conseil, mais jamais Dieu ne nous force, ne nous pousse. Mais il est avec nous. Il frappe à la porte de notre cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Amen. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et le Seigneur va plus loin et purifier nos cœurs. Pardonner, c'est une chose, mais enlever la tache. Il y a des produits aujourd'hui, si vous avez une belle chemise blanche, qu'il y a une tache de sauce ou autre chose, et puis il y a des produits aujourd'hui, vous mettez dedans, la chemise est belle. Mais le sang de Jésus est plus efficace que le produit, je ne sais pas, je ne veux pas faire la publicité ici, de ces produits, mais le sang de Jésus est parfait pour nous purifier, quoi que tu fasses. Je ne sais pas si tu as fait plus mal que David, parce que quand on voit ça, on dit, mais voilà, et c'est tout. Ce qui est bien, ce que nous retenons chez David, et qui fait qu'il est toujours l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que quand on lui dit, David, tu n'as pas bien fait, et quand il se rend compte, automatiquement, il se met à genoux. Mais qu'est-ce qui te pousse, toi, à résister à Dieu, à continuer à vivre une vie de dissimulation, une vie cherchant à cacher, à faire des stratégies, des stratagèmes. Dieu veut un cœur bon, un cœur repentant. Et c'est ce cœur-là, mon frère, ma sœur, si c'est la première fois que tu es là, ou si tu es habitué à nos cultes, que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Nous avons entendu des prophéties, c'est vrai. Mais quand Dieu nous prévient, c'est justement pour éviter qu'on tombe. Quand il dit prenez garde, revenez à moi. Et ce matin, je termine avec cette parole de Dieu. Dieu vous aime, Dieu nous aime. C'est pourquoi il n'a pas montré la partie extraordinaire, magnifique de David qui terrassait Goliath et un vainqueur. Il était acclamé par tout le peuple et passé en silence ce qu'il a fait de mauvais. Il a fait, mais il a été pardonné. Amen. Toi aussi, Dieu veut te pardonner. Que son nom soit glorifié. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, je ne connais pas les cœurs de ces bien-aimés qui sont devant moi. Mais toi, tu les connais. Je te prie de les bénir dans le nom de Jésus. Merci de les purifier, de les sanctifier. Que celui qui est abattu, découragé, Seigneur, trouve en toi la force de revenir parce que tu es la force, tu es notre capacité. Merci de relever, Seigneur. Merci de purifier, de sanctifier, de nous mettre debout les uns les autres et que nous puissions marcher dans tes voies en vainqueur. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Amen.